Morning Edition from NPR News.
Let's see, he's on the house. Hey, I'm ready to
France Inter, le 18
mars. Ce soir, nous allons sur ce deuxième front qui est le nôtre en France, autrement plus particulier que l'affaire ukrainienne. Hier, le Premier ministre malien en a remis une couche sur la responsabilité de la France dans la partition malienne. Une provocation de plus, une séquence de plus dans ce questionnement français. Comment quitter le Mali sans quitter le Sahel ? Le bruit du monde ce soir est au fond des océans, à 5000 à 6000 mètres. Là où sont des richesses désormais épuisées sur la terre ferme, est-ce qu'on va les chercher ? Comment on y va ? Est-ce qu'on est déjà prêt ? Est-ce qu'on y va déjà ? Et pour quelles conséquences ? Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé des hippopotames chassés en Colombie, les excuses des Australiens pour les abus sexuels en politique et des bains de forêt donc au Canada. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce qui met un pantalon à mini. Enfin, 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Quand l'Europe se réveille, nous dira Jean-Marc avec quoi ? Eh bien, avec des semi-conducteurs made in Europe. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, notamment, je le disais. À chaque jour, on en rajoute une couche en quelque sorte. Hier lundi, le Premier ministre malien a accusé la France d'avoir cherché la partition du Mali, d'avoir instrumentalisé même l'organisation des États ouest africains qui entend sanctionner le Mali. On a bien compris, Monsieur Pérouse de Monclos, que la junte était en train de nous pousser le plus loin possible. L'idée, c'est quoi ? C'est chaque jour un petit bout d'humiliation, chaque jour on pousse le bouchon un peu plus loin pour nous entendre dire enfin « c'est bon, nous partons », c'est ça le jeu ?
Bah, le jeu, c'est aussi de conforter la légitimité de la junte au pouvoir en se présentant comme, disons, un gouvernement très très anti-puissance impérialiste. Vous voyez ce genre de choses. Ça marche assez bien, hein, quelquefois. La junte au pouvoir a aussi passé un contrat avec une société russe,
bien
Wagner, qui va aussi lui servir de garde prétorienne, mais finalement lui éviter le coup d'État, ce qu'elle craint aussi, puisqu'elle est elle-même le résultat d'un autre coup d'État dans le coup d'État, puisqu'on avait eu un autre en 2020. Donc aujourd'hui, on est dans un jeu de surenchère qui effectivement pousse la France vers la sortie. Ça me paraît assez clair. Au-delà de l'escalade verbale, il y a aussi ce ressentiment, cette frustration énorme des Maliens et beaucoup de Sahéliens qui voient que finalement l'opération Barkhane n'a pas permis d'en venir à bout des groupes djihadistes. Donc les gens sont déçus et du coup, ils imaginent que la France cherche en fait à prolonger le conflit pour mettre la main sur des ressources insoupçonnées. Il y a beaucoup de complotisme en la matière.
Mais est-ce que ce qui nous ennuie au fond, si nous partons, enfin quand nous partirons d'ailleurs, on va plutôt le mettre comme ça, effectivement Marc-Antoine Pérouse de Monclos, et on verra dans quelles conditions, mais est-ce que ce qui nous ennuie, c'est d'abandonner le Mali à grande échelle, peut-être un peu plus loin, à des djihadistes potentiellement, ou d'abandonner le Mali à la Russie qui prendra ses aises, vous l'avez déjà évoqué avec Wagner, exactement comme ça s'est passé d'ailleurs en Centrafrique, donc quel est le plus, qu'est-ce qu'on pèse nous là-dedans ?
Je crois que c'est un peu des deux, mais surtout l'humiliation, le sentiment de partir sur un constat d'échec, alors qu'au départ, en 2013, avec François Hollande, la France était intervenue pour, disons, marquer son statut à l'international, on allait sauver le monde de la barbarie djihadiste.
Et on nous l'avait demandé, surtout, à ce moment-là, Monsieur Pérouse de Monclos, et on nous l'avait demandé, surtout, à ce moment-là, dans mes souvenirs, en 2013.
Ça, en revanche, sur la forme, ça a été légalisé de façon ex post. Mais il faut se rappeler que le gouvernement à l'époque au pouvoir, c'est un gouvernement putschiste. Donc la CDAO, la Communauté Régionale des États d'Afrique de l'Ouest, avait mis en place un premier ministre, mais qui n'était pas nommé, qui n'était pas élu. Donc la légitimité de l'autorité qui a fait appel à l'aide de la France, elle reste assez contestée en réalité. Mais au-delà des arguments juridiques, il y avait effectivement un relatif consensus à l'époque. Les Maliens applaudissaient l'armée française qui débarquait pour les débarrasser du fléau djihadiste. Et puis surtout, pour les Maliens, et là on le voit tout de suite, il y a un peu un décalage, des séparatistes Touareg. Or, il se trouve qu'il y a eu des alliances un peu troubles dans le Nord pour utiliser les séparatistes Touareg pour combattre les groupes djihadistes. Et il y a eu notamment un moment très fort en 2013 où l'armée française a interdit à l'armée malienne de remonter sur Kidal, qui était le fief des séparatistes dans le nord. En fait, pour les empêcher, l'armée malienne, de commettre des massacres, hein, ce qu'ils ont très bien pu faire autrefois, parce qu'il y a une longue histoire de rébellion Touareg dans la région. Mm-hmm. Donc l'idée, c'était aussi d'éviter des dérapages contre les civils. Il y avait un sentiment de revanche très fort, vous voyez, à Bamako à l'époque, où en fait, on voulait utiliser l'intervention militaire de la France pour régler leur compte définitivement aux séparatistes Touareg. Mais... Et c'est ce qu'on a voulu en fait empêcher à l'époque, mais c'est évidemment très très mal perçu par les Maliens qui s'offusquaient de voir l'armée française leur voir refuser l'entrée sur leur propre territoire. Vous voyez, ça n'a jamais cicatrisé, ça.
Mais justement, M. Pérusse du Monclos, est-ce que vous diriez, parce qu'on est encore en 2013 dans ce que vous nous racontez, on est en 2022, ça veut dire que le point de rupture, il est aussi tôt que ça, il est si haut que ça, en fait, et finalement, pendant ces 8 dernières années, on a marché au bord du précipice.
Non, il y a eu une aggravation des choses. Bon, d'abord, le fait que l'armée française n'a pas réussi à endiguer l'expansion des violences qualifiées de djihadistes, donc ça a beaucoup frustré les Sahéliens. Et puis, il y a un effet de durée qui est assez connu, qui ne vaut pas que pour la France. Toute intervention militaire étrangère dans le monde, à partir du moment où ça dure un peu trop longtemps, les troupes de libération sont vite perçues comme des forces d'occupation. Mmh. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui plus est, dans une situation où dans la zone, on a donc d'autres putschistes qui ont pris le pouvoir là récemment au Burkina Faso, et on se demande dans quelle mesure ils pourraient pas être eux aussi tentés de s'acheter une légitimité, non pas par les urnes, mais en décriant l'ancien colonisateur. Voilà, il y a un petit peu ce jeu-là qui se passe en ce moment.
Vous parlez évidemment du Burkina, bien sûr, absolument, Burkina Faso, le Tchad à côté, où la situation est un peu différente, mais pas moins reluisante non plus. On a cru un moment en France, précisément parce qu'on avait bien compris qu'il fallait faire évoluer Barkhane, on a cru qu'on pouvait s'appuyer sur le G5 Sahel, par exemple, et sur ces 5 pays, au fond, le Tchad, le Mali, le Burkina sont en situation d'état militaire, il en reste finalement 2. Est-ce que, du coup, ce G5 Sahel, désormais, est sorti intégralement de la photo. Est-ce qu'on n'y pense même pas ? Je vous pose d'autant plus la question que, théoriquement, la tête, c'était le Mali qui devait prendre la tête du G5 Sahel. J'imagine que c'est plus d'actualité. Est-ce que ça l'est ou est-ce qu'on en est là-dessus ?
Effectivement, on a 3 des 5 membres du G5 Sahel qui sont aujourd'hui gouvernés par des militaires. Il n'y a pas eu de gouvernement d'élection à proprement parler dans ces 3 pays. Donc ça pose aussi de vraies questions sur la poursuite de l'opération Barkhane. Comment est-ce qu'on peut envisager de poursuivre, d'accompagner des armées qui sont au service de gouvernements putschistes, vous voyez, et qui sont eux-mêmes sanctionnés par la communauté régionale des États d'Afrique de l'Ouest. Ça pose de vraies questions, y compris sur le plan juridique, et l'Union européenne doit aussi se prononcer à ce sujet. Donc on a l'impression d'être un peu arrivé au bout de nos contradictions, même si ça se fait moins sentir au Tchad. Et si en revanche la situation est différente au Niger, où là on a un gouvernement élu, où on parle un peu de repositionner Barkhane, mais ça sera un peu un pis-aller, faut pas se leurrer. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est plutôt peut-être de repositionner les forces militaires françaises du côté de la Côte d'Ivoire, pour empêcher justement que ce conflit ne déborde encore davantage vers le sud et le golfe de Guinée, où là, sur la côte, on a effectivement des intérêts économiques beaucoup plus importants qu'au Sahel.
Vous dites effectivement, vous parlez du Niger, c'est le pays qui revient le plus souvent, vous dites que potentiellement c'est un pis-aller. Est-ce qu'il peut y avoir, d'abord, est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air, de translater une opération de ce genre, ce qui reste quand même du monde, de translater une opération de ce genre d'un pays à l'autre?
Pas du tout, sur le plan logistique, ça prend des mois et des mois, voilà, c'est très compliqué, c'est très onéreux aussi. Ouais.
Donc il y a cette difficulté-là, et est-ce qu'il y a une difficulté aussi qui viendrait du Niger et qui dirait, dans l'état de cette région, si on s'approche trop de la France, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation aussi complexe finalement que celle du Mali, que celle du Burkina, se retrouver aussi avec un sentiment anti-français qui monte et des conséquences que pour l'instant on ne mesure pas dans ce pays qui, vous le disiez, a l'air à peu près stable?
Effectivement, c'est un des grands dilemmes, je pense, du président Bazoum, qui est à la tête de la République du Niger, et qui est que s'il apparaît comme le dernier pays de la région appuyé vraiment par l'armée française, il va en pâtir sur le plan de sa légitimité nationale. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'impression que plus on apparaît comme soutenu par les Français, plus on est décrié par la rue. Donc là, il y a un vrai enjeu politique aussi pour ces gouvernements. Du côté de la Mauritanie, qui est le 5e membre du G5 Sahel, dont on parle un peu moins, c'est un peu différent, ils se débrouillent déjà par eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment besoin du soutien militaire français. C'est une république islamique, donc ils ont aussi en place tout un système où ils vont finalement mobiliser leurs oulémas pour délégitimer le discours des djihadistes. Et pour l'instant, ça a relativement bien marché. D'autant qu'il y a quand même une tendance politique plutôt positive en Mauritanie relativement au gouvernement militaire qui avait précédé l'actuel gouvernement. Voilà.
Si c'est si compliqué, et on peut le comprendre, pour le Niger, pour les raisons qu'on vient de dire, d'accueillir, je vais le dire comme ça, la force Barkhane, même si d'ailleurs peut-être qu'entre-temps elle aura changé de nom, est-ce que la fameuse Task Force Tabouka, c'est-à-dire la force spéciale européenne qui pouvait un moment montrer d'autres visages justement que le visage de la France, est-ce que vous diriez qu'en l'état, le bébé est parti avec l'eau du bain? On a vu les Danois arriver puis repartir dans la foulée, ça a été un fiasco au démarrage. Est-ce que ça aussi, on fait une croix dessus et il faudra trouver une autre solution?
Disons que la force Takuba, pour moi, n'a jamais été qu'un tigre de papier. C'était effectivement un substitut proposé pour, disons, internationaliser l'engagement de la communauté internationale qui passait le relais de manière plus massive à l'Union européenne, mais dont les différents États membres n'ont pas forcément la même analyse qu'en France. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces groupes djihadistes n'ont jamais commis d'attentat outre-mer. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pas du tout la même menace que l'État islamique en Irak et en Syrie. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, différents pays comme la Tchéquie, l'Estonie ont pu se mobiliser, mais surtout pour faire acte de présence au niveau international. Et j'ai cru comprendre qu'en République tchèque, il est clair que s'ils ont un seul mort dans les rangs de leurs militaires, ils se retireront immédiatement parce que l'opinion publique ne l'entendra pas ainsi. Donc on a aussi des formes d'engagement militaire qui sont très différentes de celles de la France, où l'exécutif et l'Élysée peuvent vraiment agir quand même de manière assez indépendante par rapport aux contraintes du Parlement. C'est pas le cas de nos partenaires européens. Donc de toute façon, pour plein de raisons, la force Takuba n'était jamais qu'un pis-aller. Et aujourd'hui, effectivement, on est un peu en fin de partie de ce point de vue. Donc on voit mal Takuba prendre le relais d'un Barkhane sur le départ.
Mais
donc,
je vous entends, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Je me dis donc le Niger, c'est une option, mais c'est pas une option si facile que ça. Le Mali, évidemment, tout ça n'est pas pérenne. Est-ce qu'on peut réellement se dire qu'on va intégralement partir? Est-ce que ça, c'est de toute façon hors de la photo, il faudra trouver une autre solution. On n'est pas sûr de savoir laquelle c'est aujourd'hui, mais partir intégralement, ça n'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment sur la table?
Alors attention, parce que là on parle du militaire, mais l'action de coopération de la France dans la zone ne se limite pas uniquement à l'opération Barkhane et au déploiement de troupes. Donc il y a d'autres formes de coopération qui, elles, peuvent perdurer, des coopérations culturelles, scientifiques, linguistiques, j'en passe et des meilleures, économiques aussi. Donc ça peut continuer, quoi qu'il en soit de la dimension militaire. Mais sur le versant militaire, je crois qu'effectivement, en tout cas dans le cas du Burkina Faso et du Mali, on est arrivé au bout des contradictions. Je ne vois pas légalement, concrètement, juridiquement, comment la France peut continuer à appuyer les armées au service de gouvernements putschistes qui sont eux-mêmes sous sanction des pays de la région. Vous voyez. Alors, en plus, on est dans un paradoxe qui s'était fait un peu de durée, où on apparaît de plus en plus comme une puissance néocoloniale, avec ce dilemme ingérable qui est que les Sahéliens ont l'impression qu'on fait et défait les gouvernements de la région, y compris qu'on aurait poussé aux sanctions économiques de la CDAO contre le Mali. Oui, et en même temps, on a plutôt l'impression que sur place, la France ne contrôle rien, ou disons de moins en moins. C'est-à-dire que justement, son statut d'ancienne puissance coloniale est vraiment en train de s'effriter. Donc la fin de Barkhane, ça peut-être être aussi la marque d'une nouvelle relation avec l'Afrique, vous voyez, qui serait un peu justement dégagée de ses contraintes militaires, où il ne serait plus du tout évident dorénavant que la France serait naturellement amenée à intervenir dans les anciennes colonies francophones en cas de crise. Ça, c'est peut-être un modèle qui est en train de s'achever.
Une nouvelle présence française, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, ou présence européenne, parce qu'il nous a pas échappé que la France avait parlé d'une réponse dans une quinzaine de jours. On sait que dans une quinzaine de jours, il y a le fameux sommet Union africaine-Union européenne. Ursula von der Leyen était d'ailleurs au Sénégal aujourd'hui, où elle a parlé aussi d'un partenaire fiable qu'est l'Europe en Afrique. Donc est-ce que tout ça, selon vous, est à prendre dans le même package?
C'est-à-dire que l'Europe se substituerait à la France dans la zone?
Que l'Europe se substitue à la France, qu'on commence à jouer un rôle différent et que surtout on fasse attention à ce que nous, la France, soyons pas l'empêcheur de l'Europe, en fait, de jouer un autre rôle en Afrique?
Oui, il y a sûrement des modalités d'intervention qui vont changer, qui vont être réorientées, y compris dans les éléments de langage. Ça m'étonnerait que l'Élysée parte d'un retrait ou d'une... Voilà, il y a des mots qui peuvent être un peu porteurs d'un sentiment d'échec. Donc effectivement, l'Union européenne va servir un peu à prendre le relais pour montrer qu'on est plutôt en train de se désengager ou d'alléger le dispositif, pour reprendre les termes officiels, plutôt que de tout simplement partir. Oui, là, il y aura sûrement là un rôle diplomatique pour l'Union européenne à jouer. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'Union européenne serait mieux que la France. Hein. Enfin, sur le plan militaire, en tout cas.
Mais est-ce qu'on les gêne ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on risque de les gêner, nous, la France ? Il y a un sentiment anti-français qui se développe. Au fond, par notre simple présence, au fond, nous gênons l'ensemble de l'Europe. Est-ce que ça peut être un souci ?
Ah. Ça, il faudrait demander aux partenaires européens. Moi, ce que je vois dans le monde des journalistes, c'est qu'effectivement, je vois beaucoup de journalistes non français qui vont couvrir le Mali parce qu'ils sont mieux perçus, ils ont une meilleure relation avec la population locale que les Français. Je ne sais pas si c'est annonciateur du reste. Je pense que l'Union européenne n'a pas les mêmes facilités, y compris dans son fonctionnement, d'engagement et notamment de réactivité en temps de crise. Ça me paraît assez clair. Et puis, il y a quand même des relations historiques très fortes. C'est-à-dire que, voilà, on a toujours ce paradoxe. C'est un peu, vous voyez, la relation de la France avec l'Afrique francophone, notamment au Sahel, c'est un peu sur le mode « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois un rejet qui peut être porté par des considérations politiciennes, et en même temps, il y a quand même des relations historiques, linguistiques très fortes. C'est-à-dire que les élites au pouvoir, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles, voilà, très souvent, ils ont été formés en France et ils ont des attaches à la fois sentimentales et même parfois immobilières, d'ailleurs. Donc, on voit que la relation est assez complexe, en fait. Hein. Je pense pas qu'il y aura un départ complet de la France de la zone. Ça me paraîtrait assez singulier, enfin peu probable.
Et on aura des nouvelles. Mais... Pardon, je vous laisse finir.
Monsieur Pérou. On aura effectivement des éléments de langage qui vont changer. Voilà. Et je pense que l'Union européenne va être amenée peut-être à prendre davantage le pas, en tout cas sur le plan de la diplomatie, effectivement.
Et c'est à suivre, en tout cas avec beaucoup d'attention. Marc-Antoine Pérouse du Monclos, je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Et puisque nous sommes au Mali ce soir, laissez-moi en profiter pour souligner que Olivier Dubois, journaliste indépendant qui travaille pour Libé, pour Le Point, pour Jeune Afrique, est toujours détenu. Ça fait 10 mois, jour pour jour, qu'il a été enlevé à Gao. C'était le 8 avril 2021 par une organisation djihadiste. À part une vidéo, un mois après son enlèvement, aucune preuve de vie rendue publique, en tout cas, n'a pu être vu par de manière publique. C'est le seul otage français dans le monde. Une pétition existe pour demander aux États maliens et français d'activer sa libération, malgré le contexte, ne pas laisser son nom dans l'oubli. Il s'appelle Olivier Dubois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le bruit du monde, la suite dans Un jour dans le monde, ça se passe dans les grands fonds marins. Sommes-nous sur le point d'exploiter ces grands fonds à la recherche des ressources épuisées sur la terre ferme ? Faut-il y aller ? Comment on y va ? Qui est déjà là-bas ? On le verra ensemble dans un tout petit instant. Et la troupe habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Oui, je vous raconterai l'histoire d'un des héritages les plus encombrants de Pablo Escobar. En Colombie, un troupeau d'une centaine d'hippopotames en liberté est peut-être bientôt abattu.
Pas son genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, et Minnie Mouse enlève sa jupe. L'Amérique est choquée, Fabienne.
Allez, le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. L'Europe se réveille sur les semi-conducteurs, autrement dit les puces, vous savez, qui sont partout. Ben, je vais vous dire, il était temps.
Voilà, on verra si elles sont au fond de l'eau. Tiens, à tout de suite sur le monde, puisque nous apprêtons à aller dans les grands fonds marins. Autant se mouiller tout de suite. Voici Wet Leg et Wet Dream sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Baby, do you? Le bruit du monde, ce soir, est au fond de l'eau. Très très loin, au fond de l'eau. Vous l'entendez, savez-vous pourquoi? Eh bien parce qu'on y trouve du cobalt, du nickel, du cuivre, du manganèse. Tout ce qu'il faut pour nos téléphones, pour nos tablettes. Mais pas seulement. Est-ce qu'on osera y aller tout au fond des mers pour aller chercher ces richesses épuisées à la surface? Est-ce qu'on y va déjà? Comment on y va? Des entreprises américaines, canadiennes ou belges sont prêtes à plonger avec leurs robots à 5000, à 6000 mètres sous l'eau. La France veut être en pointe sur son sujet, l'exploration des fonds marins pour une hypothétique conquête des abysses. Certains parlent même d'explorer cette nouvelle frontière. Dit comme ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux. Le reste, depuis l'Ifremer, à Brest, c'est Célia Kigré qui raconte.
Cette chasse au trésor commence sur un bateau, en plein milieu de l'Atlantique, entre la Guadeloupe et le Cap-Vert. Ewan Pelter est géologue à l'Ifremer. Quand il est à bord, il cherche d'abord les premiers indices de présence de ces minéraux tout au fond de l'eau. En ce moment, il est à Brest, dans son laboratoire, un conteneur transportable sur le bateau.
On va rentrer dans le conteneur, donc faites attention à la marche. Donc là, on voit que c'est assez bruyant, donc c'est toujours comme ça en mer, on est toujours dans un environnement assez bruyant. Donc on a des systèmes qui nous permettent de prélever l'eau. Donc on va essayer de chercher les zones où on a des indices de volcanisme. On cherche une aiguille dans une meule de foin, hein, tout simplement. Là, on peut avoir des dépôts qui sont riches en métaux, et donc on a suffisamment d'indices pour aller envoyer le Nautil ou un robot téléopéré près du fond.
Le Nautil, le robot submersible de l'Ifremer, peut alors plonger à 5000 mètres de fond. Avec ses deux bras, il prélève des roches, des sédiments et, surprise, des minéraux apparaissent. L'Ifremer a deux permis d'exploration dans l'Atlantique et le Pacifique.
C'est l'avantage qu'on a en France, c'est de pouvoir, nous, avoir un engin qui nous permette d'y aller directement. Il faut imaginer, on est dans des zones où il n'y a pas de lumière. On sent la température de l'eau qui diminue. Sur le fond, il fait 2 degrés. C'est presque avoir l'impression d'être dans les entrailles de la Terre. On essaye de les ramener en bon état pour qu'ils soient qui révèlent un peu leurs secrets. Il y a beaucoup de fer, mais il y a aussi pas mal de cuivre, de zinc. Par exemple, ici, vous avez un échantillon qui vient d'une zone proche de l'île de Wallis et Futuna, où là, on a en plus de l'argent et de l'or. On sait qu'il y a des objets comme ici qui sont riches en certains métaux.
L'Ifremer est le seul organisme français autorisé à chercher dans les fonds marins. Mais des entreprises américaines, canadiennes ou chinoises sont sur la ligne de départ. Jean-Marc Daniel, l'un des responsables, estime que l'exploration de ces abysses est indispensable.
On sait qu'il y a un trésor au fond de l'eau, mais ce qu'on ne sait pas, c'est une fois qu'on aura ramené ce trésor en surface, qu'est-ce qui va rester en fait? Il y a un enjeu de connaissance générale qui intéresse de très près les scientifiques. Et il y a un autre enjeu qui est de développer un tissu industriel français capable d'intervenir sur ces sujets-là. Alors cette course est déjà là. Aujourd'hui, c'est principalement dans les eaux internationales que ça se joue. Et il y a un certain nombre d'acteurs. On peut citer les Belges du groupe Démé, on peut citer The Metal Company, qui aujourd'hui se développent sur ces segments-là à une vitesse très rapide. Des métaux comme le cobalt, le nickel et le cuivre, c'est des ressources dont on a besoin pour les batteries et dont on sait qu'elles sont dans des quantités significatives, au moins dans la zone de Clarion-Clipperton, au milieu du Pacifique. C'est un nouvel Eldorado très incertain.
Mais les biologistes ne cachent pas leurs inquiétudes. Les fonds marins sont fragiles et si de gros robots les raclent, des espèces vont disparaître. Pierre-Marie Saradin alerte sur un jeu dangereux.
Alors, où est-ce qu'on entre?
Donc c'est ici que tous les échantillons qu'on va récupérer dans le cadre de nos campagnes océanographiques sont triés. Les petites patates que vous voyez sur le bas de la vitrine, ce sont justement ces fameux nodules polymétalliques qui vont mettre des milliers d'années à grossir, à se former. Ça fait quelques, on va dire, entre 5, 7, 10 cm de diamètre. Ceux-ci viennent du Pacifique, dans la zone Clarion-Clipperton à 5000 mètres de profondeur. On perd des milieux pour des années. La question, c'est est-ce que cette perte, elle est inéluctable? Est-ce que ça a un impact beaucoup plus important sur le fonctionnement global de l'océan et donc de la planète?
Et à Paris, Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, se prononce sans détour. Il ne faut pas laisser les entreprises exploiter les fonds marins.
On sait que ce sont des écosystèmes extrêmement vulnérables. On sait que c'est aussi un écosystème qui joue un rôle fondamental dans le cycle du carbone, donc dans l'atténuation du changement climatique. Et si on perturbe cet écosystème, il peut y avoir des risques. Perturbation des écosystèmes et des ressources pour la pêche, perturbation du rôle de l'océan dans sa régulation du climat, perturbation d'équilibre dont on mesure à peine l'importance dans le cycle du carbone ou la production d'oxygène dans l'océan, par exemple.
Des scientifiques, des ONG s'opposent donc fermement à cette chasse au trésor. Ils exigent un moratoire refusé par la France. Le militant de Greenpeace, François Chartier, demande à Emmanuel Macron de ne pas jouer à l'apprenti sorcier.
L'image du bulldozer qui va racler le sol, c'est pas une image, c'est pas une allégorie. Le danger de la position française, c'est que finalement, ça accélère l'adoption du code minier dans le cadre de l'autorité internationale du fonds marin qui est en charge de gérer cette extraction minière. On puisse avoir les premières licences d'exploitation l'année prochaine, alors que la science demande encore du temps pour connaître ces écosystèmes.
Alors faut-il ouvrir la voie et engager des entreprises de tous les pays dans cette course aux minéraux ? Emmanuel Macron devra sans doute éclaircir sa position. À Brest, les recherches continuent plus que jamais. Le bateau, le pourquoi pas, repartira d'ailleurs l'été prochain au milieu de l'Atlantique à la découverte de nouvelles pépites.
Célia Kiret, merci. Un sujet vraiment passionnant sur lequel on reviendra dans le 18-20 très très prochainement. Le bruit du monde, en attendant, c'est aussi l'info internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Et c'est d'abord en Colombie que nous allons, qui va peut-être ouvrir la chasse aux hippopotames sur son territoire. C'est donc oui. Un hippopotame qu'on entend.
J'ai l'impression.
Parce que je croyais que c'était une mobylette, moi, en fait.
Voilà, c'est une grosse mobylette. Et qu'il faudrait faire réviser. Il y a bien des hippopotames dans ce pays, effectivement, en Amérique du Sud. Fabienne, si vous ne le saviez pas, la Colombie abrite la deuxième réserve au monde de ce type de pachyderme. En dehors de l'Afrique, une centaine d'hippopotames qui se baladent en pleine nature à 200 km de Medellín. Une étrange et fascinante présence que l'on doit au célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar. L'histoire de cet héritage encombrant est connue, mais je ne résiste pas encore à vous la raconter. À son apogée dans les années 80, Pablo Escobar fait venir en effet dans sa gigantesque hacienda toutes sortes d'animaux sauvages, dont deux couples d'hippopotames. Le chef du cartel de Medellín est abattu en 1993. Ses girafes et autres kangourous sont donnés à des zoos, mais les hippopotames, eux, sont laissés en liberté. Et c'est leur descendance qui est devenue aujourd'hui un vrai problème environnemental pour la Colombie. Que faire de ces énormes mammifères de 2 tonnes qui pourraient être plus de 400 dans 10 ans?
Vimos la castración como una de las opciones.
Ce vétérinaire explique que l'une des options pour commencer à contrôler leur population, c'est la castration chimique. Mais la castration de ces individus n'est pas facile pour de nombreuses raisons, notamment parce que c'est coûteux de les faire pour ces espèces, 1000 dollars par piqûre. Et ce n'est pas le seul problème. Les hippopotames menacent les autres espèces animales obligé de partir et menace aussi les pêcheurs. Peu d'accidents jusqu'ici, mais l'animal peut être agressif. Bref, il faut faire quelque chose de plus radical. Alors après des années d'atermoiement, le ministère de l'Environnement colombien s'est résolu il y a 2 jours à déclarer les hippopotames espèces invasives, ouvrant la porte à de possibles abattages. Mais attention, Fabienne, l'affaire est sensible là-bas. Les hippos de Pablo sont devenus une véritable mascotte locale, une attraction médiatique. L'abattage d'un mâle en 2009 avait provoqué dans le pays un véritable tollé.
En Australie, le Premier ministre s'excuse pour les abus sexuels subis par les femmes en politique.
C'est la première fois que le très conservateur Scott Morrison fait une déclaration officielle de ce type devant le Parlement. Pendant plusieurs décennies, a-t-il lancé ce matin, au sein du personnel politique, un écosystème, une culture a été perpétuée où l'intimidation, l'abus, le harcèlement et dans certains cas même la violence sont devenus normaux. En effet, selon un rapport officiel, 1 membre sur 3 du Parlement australien a été victime de harcèlement sexuel. Ces mots d'excuse du Premier ministre était en particulier adressée à Brittany Higgins, cette jeune assistante parlementaire australienne qui accuse depuis un an l'un de ses collègues de l'avoir violée dans le bureau d'un ministre en 2019. On entend là Brittany Higgins quelques mois après ses révélations publiques. C'était il y a près d'un an. Elle avait provoqué lors des manifestations de milliers de femmes dans tout le pays. Elle raconte alors la réaction des politiques après qu'elle ait osé briser le silence. L'équipe de Scott Morrison, dit-elle, activement discrédité, sapé la réputation de mes proches. J'ai vu au Parlement mes anciens patrons nier, minimiser l'expérience que j'ai vécue. Les excuses du Premier ministre australien sont-elles sincères? Plusieurs Australiennes victimes, elles aussi, d'abus et de viols, en doute. L'une d'elles, déclarée femme de l'année l'an dernier, tweetait ce matin « Pourquoi ne pas prendre des mesures proactives, préventives et ne pas se contenter de ces pirouettes électorales de dernière minute ?» Les élections australiennes, en effet, auront lieu en juin prochain.
Et on termine au Canada. Sébastien, avec des bains de forêt prescrits sur ordonnance.
On en rêve. Les bains de forêt sont une pratique ancienne, Fabienne, venue du Japon et désormais très utilisée par les médecins canadiens qui, depuis déjà plusieurs années, peuvent prescrire ces balades de 2 heures environ à leurs patients dépressifs et anxieux. Ça se fait notamment en Colombie-Britannique. Ce n'est pas du blabla, disent ces adeptes. C'est prouvé par la science. Les arbres génèrent des particules appelées les phytoncides qui, quand on les respire, font baisser notre taux de cortisol.
cortisol, l'hormone du stress. Moi, je dors mieux, dit l'un d'entre eux. Je suis moins stressé et j'ai moins de pensées négatives. Voilà, ça ne remplace pas les médicaments en cas de grave dépression, mais ça fait du bien, d'autant qu'il sera désormais possible, donc, pour les médecins canadiens, de faire une ordonnance pour un ticket dans les parcs nationaux, dont l'entrée est normalement payante. 2 heures de balade gratuite dans les parcs, déstressante, certes, à condition, évidemment, Fabienne, de ne pas croiser un gros ours.
Sauf s'il est lui-même en bain de forêt. Ouais. Auquel cas, il y aura des choses à te raconter. Lui-même très anxieux, très déprimé. Allez savoir. Merci beaucoup, Sébastien. À demain. Allez embrasser un arbre. Indra Riosmoor pour la suite Little Black Train sur France Inter. Il a son petit côté de jazzy, Indra Riosmoor, Little Black Train sur France Inter. Allez, mesdames, messieurs et autres gens, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec une mini-révolution au pays de Disney.
Révolution en forme de tailleur-pantalon, Fabienne, mais pas n'importe lequel. C'est la styliste Stella McCartney qui va rhabiller Minnie, l'autre petite souris la plus célèbre au monde, avec Mickey, bien évidemment. Il y a bientôt 100 ans, Disney imaginait l'un et l'autre à la fois pour pouvoir reproduire à l'identique ou presque des comportements humains et les interactions amoureuses qui vont avec. Mickey sera donc courageux, inventif et il aura le cœur noble. Minnie, elle, était plutôt garçonne et aventurière au départ, mais très vite, elle rentre dans le rang, attrape un balai, reste à la maison et écope, comme ici, de Pluto, le chien de Mickey qu'elle doit garder pour la journée.
Hiya, Minnie. I need you to take care of Pluto for the afternoon. Would you, please?
But Mickey, I'm in the middle of spring cleaning.
Ah, you can clean next spring. Here's his food.
But...
Thanks, Minnie.
But...
See you later.
But Mickey,
bah ouais, elle avait ménage à faire, hein. C'était quand même pas tout à fait le moment.
Jouer avec Pluto,
Minnie a le sens du devoir et de la poussière. Elle est fée du logis quand elle n'est pas demoiselle en détresse. Bref, 4 ans après MeToo, elle commençait surtout à sentir la naphtaline quand le géant du dessin animé tente, lui, de gommer tous les préjugés racistes, sexistes ou homophobes de ses productions. Donc, pour le 8 mars de cette année, soit dans très exactement un mois, se retrouvera au placard et définitivement, semble-t-il, l'iconique robe rouge à pois. Les pois restent, Fabienne, mais on les retrouve sur une veste et un pantalon ajusté. Mieux pour la liberté de mouvement, mieux pour l'émancipation des femmes, souligne Stella McCartney, qui en a fait bondir plus d'un aux États-Unis. Sur Fox News, on accuse la créatrice et Disney de céder à la pression woke pour saper les fondements même de la famille. Pire, avec cette nouvelle tenue, ils auraient voulu reproduire la silhouette d'Hillary Clinton et donc entre eux, on soulignerait ainsi la volonté de Mini de prendre le pouvoir et ça, pardon, mais c'est vraiment affreux.
Et on se demande même comment elle fait pour marcher depuis 100 ans avec des godasses pareilles, donc si elle pouvait aussi en profiter pour changer ça. Julia, on le dit, depuis l'apparition du Covid, les femmes payent le prix fort de la pandémie.
C'est l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'excision. C'était dimanche. À ce jour, 200 millions de femmes ont déjà subi des mutilations génitales dans le monde. Le virus provoquant la fermeture des écoles qui les met en temps normal à l'écart de leur famille plusieurs heures par jour et la suspension de programmes d'information sur le sujet, elle pourrait être 2 millions de plus dans les années à venir.
Silence épais, c'est à Téhéran.
Non, pas un mot des autorités iraniennes sur le sujet, tandis que les réseaux sociaux flambent de colère. Ce sont des associations de droits de l'homme et des médias de la diaspora qui ont diffusé l'information. Deux hommes viennent d'être pendus dans la prison de Maragueh, au nord-ouest du pays. Ils y purgeaient depuis 6 ans une peine pour sodomie. Dans le code pénal iranien, l'homosexualité reste passible de la peine de mort, mais cette loi, d'après Téhéran, ne serait en pratique jamais appliquée. C'est en tout cas ce que la délégation iranienne répète à l'ONU dès qu'elle est interrogée sur la question. Sauf qu'en juillet dernier, déjà, d'après les ONG, dans cette même prison de Maragueh, deux hommes étaient exécutés pour les mêmes raisons et de la même façon. Ils avaient 23 et 25 ans.
Et pour terminer, Julien, un tout petit peu d'air, c'est en Afghanistan.
Il semblerait que les discussions d'Oslo aient un peu porté leurs fruits. La communauté internationale, vous le savez, conditionne le déblocage de son aide financière à un certain nombre de garanties, notamment sur la question des droits des femmes. Résultat, elles sont quelques dizaines à avoir retrouvé ces derniers jours le chemin des amphithéâtres. L'université leur était interdite depuis le mois de septembre. Elles sont 6 à leur avoir rouvert la porte. Alors attention, hein, que le matin pour les femmes et en niqab ou en burqa, et avec des hommes en armes à l'entrée, bref, on a vu plus accueillant. Mais tout de même, c'est sans doute la seule petite avancée qu'aient obtenue les Afghanes en 6 mois. Disons, les adultes, hein, pour être précise, parce que pour les plus jeunes, la situation reste bloquée. Les collèges, comme les lycées, leur sont toujours fermés.
Et je signale au passage qu'il y a une délégation, justement, d'une dizaine de talibans qui est à Genève cette semaine, à l'invitation d'une ONG, pour tenter d'améliorer, effectivement, le respect des droits humains et l'accès de l'aide humanitaire aussi en Afghanistan. Merci beaucoup, Julia Foyce, et à mardi prochain.
À mardi.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la Commission de Bruxelles a annoncé ce matin un vaste plan de 43 milliards d'euros pour produire des semi-conducteurs sur le sol européen. Alors dit comme ça, ça paraît un peu austère, mais pour vous, c'est non seulement concret, c'est surtout très important, c'est le signe que l'Europe se réveille enfin sur une question déterminante, et c'est votre monde d'après.
De quoi parle-t-on? Des puces? Oui, vous savez, ces puces qui sont désormais partout, là, dans votre téléphone qui ne vous quitte jamais, dans votre voiture, votre lave-linge, votre ordinateur, votre télévision, un marché colossal estimé à 600 milliards d'euros par an. Et sur les puces, l'Europe, au fil des ans, est devenue la belle au bois dormant. L'Europe, qui fut pourtant à l'origine de la recherche sur le sujet, qui contrôlait 40% du marché il y a 30 ans, aujourd'hui, elle ne représente plus que 9% de la production mondiale. Les États-Unis maîtrisent la recherche. L'Asie, particulièrement Taïwan, contrôle la fabrication. Et voilà, badaboum, que la pandémie met en évidence les risques de pénurie. À tel point que, faute d'approvisionnement en semi-conducteurs, des usines automobiles européennes ont été mises au chômage technique. En plus, les bruits de bottes chinois autour de Taïwan alimentent un peu plus encore les craintes. Et si on se retrouvait sans puces ? Il est donc grand temps que la belle endormie se réveille, d'où le plan proposé ce matin par la Commission européenne d'une ampleur comparable à celui dévoilé par les États-Unis, des dizaines de milliards pour aider la recherche, en particulier sur les puces microscopiques de nouvelle génération, et pour ouvrir des chaînes de fabrication sur le sol européen. Objectif, reprendre à peu près 20% du marché d'ici 2030. Ça serait déjà un progrès.
Cette nécessité pour l'Europe, Jean-Marc, de reprendre son autonomie, ça vaut pas que pour les puces. Hein.
Ouais, c'est risqué hein, d'être dépendant, a fortiori, d'un seul fournisseur, par définition, et il vous tient à sa merci. Et on en a une autre illustration flagrante avec la tension autour de l'Ukraine. Elle met en évidence la dépendance européenne au gaz russe. Et là aussi, il est temps que la belle au bois dormant arrête sa sieste. Parce que cette dépendance, elle est connue en fait depuis belle lurette. 40% de la consommation de gaz en Europe provient de Russie. C'est même plus de 50% en Allemagne. Et puis en plus, l'Allemagne, elle va devoir recourir au gaz de façon croissante ces prochaines années, vu que nos voisins arrêtent le nucléaire. Tout cela, on le savait, mais il aura fallu l'engrenage autour de l'Ukraine avec son risque par effet en chaîne de pénurie de gaz russe pour que l'on écoute le dring-dring du réveil matin. Comme pour les puces, c'est donc un problème de dépendance. Mais la porte de sortie, pour le coup, n'est pas tout à fait la même, parce que l'Europe n'a que peu de solutions sur son sol, même le gisement néerlandais de Groningue va fermer. À moyen terme, l'éolien et le solaire, dont les coûts diminuent, vont fournir des réponses. À court terme, il n'y a pas d'autre choix que de diversifier les fournisseurs en gaz, d'où ces négociations lancées tous azimuts par Bruxelles ces derniers jours, auprès de tous les autres grands producteurs mondiaux, les États-Unis, le Qatar, la Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, l'Égypte, etc. Mais franchement, hein, la belle au bois dormant européenne aurait pu réaliser plus tôt qu'elle laissait Vladimir Poutine lui lier les mains avec des gazoducs.
Donc, dans les deux cas, les puces ou le gaz, question d'autonomie, question de liberté pour l'Europe.
Oui, absolument. Et puis, en fait, ça vaut pour plein d'autres sujets. Hein. Les médicaments, on l'a vu avec la pandémie et le vaccin, les batteries électriques, l'intelligence artificielle, le cloud, etc. Mais retrouver son autonomie nécessite un changement complet de logiciel pour l'Europe. Cesser de vénérer le commerce et le libre-échange comme la solution à tout, c'est faux. A fortiori quand d'autres, à Washington ou à Pékin, font du protectionnisme à gogo. L'Union européenne, c'est un peu devenu le dindon de la farce, hein, l'idiot utile du libre-échange. Elle doit se réapproprier sa force de production, se réindustrialiser, diversifier ses fournisseurs et ses clients. Et ça passe par des aides publiques, de l'interventionnisme. Souci, c'est en partie incompatible avec le traité européen et aussi avec les réticences des pays du Nord. Et c'est pour ça que sur les puces, la Commission tripatouille un peu les affichages en disant que bon, c'est un cas particulier, puis ce sont des aides pour de nouvelles entreprises, etc. Ça serait plus simple, hein, franchement, d'assumer. L'Europe, si elle veut rester libre, doit devenir une puissance et donc investir massivement dans sa réindustrialisation. C'est le point de vue de Paris depuis un moment. Berlin s'y convertit peu à peu. La belle au bois dormant européenne bâille encore un peu dans sa phase de réveil. Elle doit sortir de sa torpeur et vite avant de se réveiller enchaînée par Pékin, Washington ou Moscou.
Allez, Jean-Marc Fauré, le monde d'après. Merci à vous Jean-Marc. À demain, le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly juste après. Il y a le téléphone sonne. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Ne changez rien.